Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Eh bien, aujourd'hui, le monde célèbre la première journée humanitaire mondiale, ce mercredi 19 août 2009. Une journée qui a été instituée depuis décembre 2008 par l'Assemblée générale des Nations unies pour sensibiliser le public aux activités humanitaires dans le monde et surtout attirer l'attention sur les besoins humanitaires à travers le monde, rendre hommage à tout le personnel humanitaire qui travaille pour la cause humanitaire et également rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. Alors, pour en parler, nous recevons Haruna Ouédraogo, chargé du programme de coordination de la lutte anti-mine en République démocratique du Congo. Monsieur Haruna, bonjour.
Bonjour.
Alors, en ces jours de la première célébration de la journée humanitaire mondiale, première question, vous travaillez par rapport à la lutte anti-mine en République démocratique du Congo. Quel bilan peut-on faire aujourd'hui des activités concernant la lutte anti-mine dans notre pays?
Le bilan qu'on peut faire, disons... Permettez-moi tout d'abord de vous remercier donc pour cette occasion que vous nous donnez, humanitaire et particulièrement plus précisément ceux qui travaillent dans la lutte anti-mine. Je voudrais ici aussi profiter de l'occasion, de l'opportunité également pour saluer, parce que comme vous l'avez dit, cette journée est dédiée à la reconnaissance du travail qui est fait par les humanitaires, à travers tous les pays. Donc je voudrais profiter de votre micro pour reconnaître le travail, saluer le travail qui a été fait par les opérateurs en lutte anti-mine, particulièrement. La lutte anti-mine en République démocratique du Congo, comme dans tous les pays qui ont connu des conflits, a commencé juste donc après la fin du conflit et consistait essentiellement à aider à débarrasser ce pays de ce fléau que constituent les mines antipersonnelles, mais pas seulement les mines, les engins non explosés aussi que nous appelons restes explosifs de guerre, qui sont souvent plus dangereux et plus mortels que les mines antipersonnelles. Et qui font
Il y a par exemple les bombes, les grenades, les obus de mortier, les munitions, et même des sous-munitions.
Part, voilà, ça c'est un élément qu'il importe de souligner. Nous avons même rencontré des bombes à sous-munitions dans ce pays qui ont été donc utilisées pendant les différents conflits que le pays a connus.
Bombes à sous-munitions, qu'est-ce que cela veut dire
exactement? Bombes à sous-munitions, c'est un autre type de munitions qui est larguée et qui se disperse, c'est-à-dire que c'est une bombe qui contient beaucoup de sous-munitions, comme on les appelle, et lorsqu'elles sont larguées, ces sous-munitions peuvent contenir des milliers, une bombe peut contenir des milliers, et lorsque cette bombe est larguée, elle s'ouvre et elle, si vous voulez, elle disperse ces sous-munitions donc sur une zone très étendue.
Ça cause beaucoup de dégâts.
Elles sont destinées à exploser à l'impact, c'est-à-dire lorsqu'elles touchent le sol, mais dans la plupart des cas, malheureusement, un grand pourcentage de ces engins n'explosent pas, restent sur le sol, et dès que quelqu'un en marchant les touche ou bien les bascule, c'est fini.
Ça cause des dégâts terribles. Alors, quels sont les coins, les zones qui sont où on retrouve beaucoup plus ces mines antipersonnelles en RDC?
Alors, je reviendrai d'abord à votre question de ce qui a été fait au niveau de la lutte jusque-là. Il faut dire que grâce au travail donc des opérateurs que je soulignais tout à l'heure, il y a eu essentiellement d'abord un gros considérable travail qui a été fait au niveau du mapping, c'est-à-dire voir un peu quelle est l'étendue du problème à travers le pays, mais aussi intervenir dans les zones d'abord d'urgence. Et puis donc à ce titre, il y a eu plus de 5 millions de mètres carrés de superficie qui ont été nettoyés à ce jour. Il y a eu des destructions de plus de 3000 mines antipersonnelles.
C'est dans quelle zone particulièrement? Au Kivu, à l'est du pays?
Disons que les zones les plus affectées, vous avez des zones comme le Katanga, vous avez des zones comme les Kivu, les deux Kivu, le nord, le sud Kivu, vous avez des zones comme l'Équateur et vous avez des zones comme la province orientale. Mais je veux dire que tout ce que nous avons comme chiffre jusqu'à présent ne constitue que en fait la partie émergée de l'iceberg, parce qu'en réalité nous n'avons pas encore eu les moyens de faire toute l'étude technique normale nécessaire, et donc ce que nous avons comme chiffre ne reflète en réalité qu'une partie de la réalité, parce qu'en ce sens que si nous avons les moyens, et cela, l'expérience l'a prouvé, dans une zone comme dans un district comme celui du Tanganyika, un petit district, Avant les études, on avait recensé une cinquantaine de zones dangereuses et après les études, nous sommes arrivés à plus de 500 zones dangereuses qui ont été répertoriées. C'est vous dire un peu l'étendue du problème si on avait les moyens de faire ces études. Alors donc, je citais donc le Katanga, le Kivu, l'Équateur, l'Ituri, enfin la province orientale en général, et puis le Maniema, les Kasaï. Un peu partout. Voilà. D'autant plus que on vient d'apprendre il n'y a même pas deux semaines encore que la frontière avec l'Angola même serait actuellement en train d'être l'objet de poses de mines. Donc par rapport à la canalisation donc des expulsés et des réfugiés.
Et nous savons que le samedi 4 avril 2009, c'était la 4e journée internationale pour la lutte anti-mine, organisée en République démocratique du Congo. Cet événement a été organisé sous le thème « La RDC sans mines antipersonnelles et les restes explosifs des guerres, gage d'une paix durable pour la reconstruction nationale ». Et nous savons que la Convention d'Ottawa veut que la RDC soit totalement débarrassée des mines d'ici 2012. Alors, on se demande si, avec le bilan, avec le panorama que vous venez de dresser, est-ce que cela sera possible?
Je voudrais simplement vous répondre en disant que rien qu'hier, je voyais sur Internet que en France, actuellement, ils sont en train de continuer à se débarrasser des engins des restes explosifs de guerre de la Deuxième Guerre mondiale.
Ah,
et dans le même article, on disait qu'il reste encore... au rythme où ça se passe en France actuellement, il faut encore au moins une centaine, voire même deux centaines d'années pour que la France puisse être totalement débarrassée. Donc c'est juste pour vous donner une idée, c'est vrai que la Convention fixe des délais, mais il faut prendre en considération le fait que c'est un travail qui est très difficile, c'est un travail qui est très délicat, qui nécessite beaucoup de moyens techniques comme financiers. Et donc qui se fait difficilement sur le terrain. Et à ce titre, je voudrais rappeler également que la même convention aussi donne la possibilité, et ça s'est vu et ça se voit tous les jours, donne la possibilité aux États affectés, par rapport au fait qu'ils n'ont pas pu respecter ces délais, de demander donc des prolongations. C'est dire que, quelque part, on est conscient du fait que ça va être difficile, et particulièrement ici en République démocratique du Congo, où la lutte ne fait que commencer, où la lutte ne fait que s'organiser. C'est vrai que la convention a été signée en 2002, et donc c'est 10 ans qu'il faut pour se débarrasser de toutes ces mines.
Oui.
Mais à l'heure actuelle, nous avons certainement beaucoup...
Il y a encore beaucoup de défis
beaucoup de travail à faire.
Oui, nous avons également dans ce studio Mathieu Wilner-Red. Il est de MAG, c'est le programme Mine Advisory Group. Et je vois là, il est écrit « Save life, build future », donc vous travaillez pour sauver des vies et construire le futur. Alors, qu'est-ce que vous faites vous travaillez, je suppose que vous travaillez en collaboration avec M. Hidalgo dans le cadre de la lutte contre les mines. Alors, pouvez-vous nous parler de ce que vous faites comme action sur le terrain en République démocratique du Congo?
Oui, absolument. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier aussi pour m'avoir invité ici. Nous travaillons essentiellement dans les provinces du Katanga, de l'Équateur et des deux Kasaï.
Oui.
Comme vous avez dit, en étroite liaison avec
l'UNMAC
et les autres ONG nationales et internationales.
Voilà.
Nous travaillons essentiellement pour enlever tous les items dangereux qui, comme vient d'être évoqué, continue de polluer le pays, de tuer les gens, de les rendre handicapés, d'empêcher les communautés de recommencer leur vie normale. C'est un travail dangereux, mais important. Nous avons les équipes de liaison communautaire qui vont dans toutes les communautés. Ils parlent avec les gens, ils les fournissent les séances d'éducation au risque des mines. Pour qu'ils puissent mieux faire face aux dangers de ces engins. Puis ils les localisent, ils identifient les localisations des zones dangereuses. Et après, nous avons des équipes de dépollution, de déminage, qui vient enlever tous ces engins et ils les détruisent.
Voilà. Donc, vous savez, cette émission, on reçoit des invités, tels que vous êtes là, et les auditeurs appellent pour... ils ont des préoccupations, des problèmes par rapport aux mines, et ils les soumettent à nos invités qui répondent, qui apportent des solutions. Nous avons, par exemple, en ligne Sikulu qui nous appelle depuis Boutembo. Sikulu, bonjour. Monsieur Sikuli, voilà, bonjour. Quelle est votre préoccupation?
Bon, ma préoccupation est celle-ci.
Oui.
Je disais que moi, je suis au Kivu et c'est la région qui a été beaucoup plus touchée par la guerre.
Oui.
J'aimerais juste demander au représentant de cette ONG d'Andimine qu'il me dise combien de bombes ont-ils déjà découvert ou bien combien de munitions.
Oui, c'est Sikouli. Oui. Oui, s'il vous plaît.
Oui. Bien sûr.
Oui, Sikouli, est-ce que vous pouvez nous présenter d'abord la situation là où vous êtes? Quel est le problème auquel vous faites face par rapport aux mines antipersonnelles?
C'est-à-dire, nous avons été. Il y a des milliers où, par exemple, qui ont logé des militaires, des lieux qui ont été couverts par la guerre, mais. Jamais je suis au Kivu, j'ai jamais vu cette ONG, par exemple, visiter ces lieux-là.
Quel lieu, par exemple? Vous pouvez être beaucoup plus précis.
Oui.
Oui, est-ce que vous pouvez indiquer ces lieux avec précision?
Là, je parle, par exemple, il a fait les 30 kilomètres du tronçon Beni-Butembo. Il y a un millier qui a été vraiment, qui a été chat de bataille. Hein?
Oui.
Oui, alors j'ai jamais vu cette ONG ou bien les agents de cette ONG, par exemple, visiter ces lieux. Moi, je me dis, est-ce à supposer s'il y avait, par exemple, une munition qui explosait, ça constituait un danger. Alors ces gens pourraient peut-être couvrir toute la RDC s'ils essaient de partir, puisqu'il ne s'agit pas de parler du Congo en étant à Kinshasa. Il faut aussi entrer à province.
Merci beaucoup Sikouli à Butembo, à partir de Butembo pour votre intervention. Alors, Monsieur Mathieu, vous avez suivi, est-ce qu'il dit que sur le tronçon Beni-Butembo, il y a eu beaucoup de mines antipersonnelles. Est-ce que vous êtes également opérationnel de ce côté-là? Pour cet endroit spécifique, je ne peux pas répondre parce qu'on n'est pas opérationnel au Kivu. Mm-hmm. Cela dit, nous avons fait une visite d'évaluation il y a quelques mois. Pour évaluer la situation de pollution, et nous avons trouvé que c'est un taux assez élevé de pollution, mm-hmm. Surtout environ Rutshuru, Masisi, nous avons été là, et ça pose un grand danger à la population.
Oui.
Mais il y a des autres opérateurs qui sont actifs dans la lutte anti-mine qui sont présents là-bas.
Mm-hmm.
Donc peut-être mon collègue de l'UNMAC,
oui.
Monsieur Aruna
ou Edraogo, vous avez suivi cette question de l'auditeur,
qui est très, somme toute, une question très intéressante et très pertinente. C'est vrai effectivement que le Nord Kivu constitue une zone qui est beaucoup affectée, et je voudrais simplement dire, donner à titre des statistiques, que sur les 200 zones que nous avons répertoriées dans le pays, actuellement, il y a au moins plus de 130 au niveau du Nord Kivu.
Du Nord Kivu.
Sur les 2100 victimes que nous avons recensées et qui nous ont été rapportées, il y a pour le Nord Kivu quelque chose comme 300 et quelques victimes. Donc c'est dire que il y a quand même le problème se pose avec acuité à ce niveau-là.
Oui.
Mais ce qu'il y a à dire, et c'est peut-être ce que notre auditeur doit savoir, c'est que les interventions se font sur la base justement de ce que nous appelons les études dont Mathieu parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des approches, des équipes qui sont envoyées, et ces équipes se chargent de voir, de répertorier les zones où il y a les problèmes, ce que nous appelons les zones dangereuses. Et maintenant, suite à ce recensement de zones dangereuses, nous procédons à une prioritisation, parce que c'est vrai que vous connaissez la taille de ce pays. Mm-hmm. Et donc, si vous prenez en compte tous ces éléments, le manque d'infrastructures également, si vous prenez en compte tous ces éléments, vous savez qu'il est difficile de pouvoir intervenir et partout en même temps. Qu'est-ce que nous faisons après avoir recensé les zones dangereuses? Nous voyons quelles sont les zones où il y a une certaine priorité.
Mm-hmm.
Et par rapport à cette priorité, donc nous établissons des opérations de dépollution. Mais pour ce qui est de la zone, particulièrement de la zone dont il a parlé,
il y a Beni-Butembo.
Beni-Butembo, je sais que nous n'avons pas un opérateur qui a déjà travaillé sur ce tronçon. Par contre, nous avons travaillé déjà sur le tronçon Beni-Komanda,
mm-hmm.
Qui est un peu le prolongement dans cette zone aussi, quelque part. Et il y a un opérateur qui a d'ailleurs été contacté par la MONUC. qui est payé par la MONUC, c'est la compagnie Mekem. Mm-hmm. La compagnie Mekem a beaucoup travaillé dans cette zone, dans la zone de Boutombo aussi, sur des endroits qui leur ont été signalés. Wow. Donc nous demandons à notre auditeur, oui, de bien vouloir rapporter ces éléments-là à des gens qui pourront nous transmettre les informations et que...
Donc, M. Sikou, vous pouvez aller voir ceux qui sont le point focal qui est là-bas.
Pas seulement le point focal, même, oui, les autorités locales. C'est-à-dire, oui, qu'il faut faire simplement remonter l'information, oui, pour qu'elle parvienne au centre de lutte antimine des Nations Unies. À partir de ce moment, oui, nous pourrons voir dans quelle mesure nous pourrons trouver un opérateur qui va se charger de régler le problème.
Voilà. Alors, Mathieu, nous allons quand même rendre service à la population. Comment on peut reconnaître une mine antipersonnelle et comment on doit se comporter par rapport à ça? Comment reconnaître qu'on est en face d'une mine antipersonnelle?
D'accord. Les mines antipersonnelles et les restes explosifs de guerre peuvent prendre plusieurs formes.
Formes, oui.
Il y en a beaucoup dans ce pays. C'est un pays vraiment pollué avec tout type de munitions.
Et ça ressemble à quoi,
hein? Ça peut ressembler à beaucoup de choses, parce, oui, qu'ils ne sont pas tous la même. Ça peut ressembler à une boîte en métal, rond. Ça peut être plus grand comme un mortier. Donc, en fait, s'il y a quelque chose, soit en métal, soit en plastique, mm-hmm, que vous ne reconnaissez pas,
et les enfants peuvent jouer avec, hein, ça peut ressembler à une mangue.
Ça arrive très souvent que les enfants jouent avec ces choses et ils explosent. Donc c'est pour ça que les enfants sont très souvent les premières victimes. Mm-hmm. Donc s'il y a des choses suspectes, ne les touchez pas, ne les approchez pas.
Oui.
Prends les renseignements et... passer les informations aux autorités civiles, politiques, la, oui, FRDC, ou s'il y a des organisations de déminage, mm-hmm, s'il vous plaît, les informer, passer ces informations, et nous, les autres opérateurs vont venir et les enlever.
Ok, merci. Alors nous avons Nyangi Tukale depuis Nyangi, en province orientale. Monsieur Nyangi Tukale, bonjour.
Ah oui, bonjour.
Oui, quelle est votre préoccupation?
Oui, ma préoccupation, c'est exactement concernant ces mines antipersonnelles. Une fois, on est tombé sur ces mines à Nyakunde, c'est situé à 45 km au sud de Bunia. Oui, c'était une grenade.
Oui.
C'était aux années 2006, je pense, à l'époque où la milice SRPI contrôlait encore une partie du milieu. On a récupéré l'engin et qu'on a donné, que les miliciens ont récupéré, bien sûr. Mais depuis tous ces jours-là, il n'y a pas eu vraiment une organisation de déminage qui s'est rendue sur terrain.
Vous avez dit que c'est à Nyakunde?
Oui, c'est à Nyakunde, oui. C'est à 45 km au sud de Bunia.
Voilà, merci beaucoup pour votre préoccupation. Alors, M. Aruna Ouedraogo du programme de coordination de la lutte anti-mine en RDC, vous avez une réponse par rapport à ça?
Je veux dire que je connais bien Nyakunde pour y être personnellement allé, justement dans le cadre de ce travail.
Oui.
Je me rappelle que dans les années 2004-2005, nous avons eu à intervenir autour de l'ancien hôpital, qui était un très bel hôpital, soit dit en passant, mais qui a été vraiment détruit, qui a, mm-hmm, été totalement détruit. Nous sommes intervenus également dans le village, parce qu'à ce moment, tous les habitants avaient fui le village, et nous sommes intervenus autour de la piste d'aérodrome. Mmh. De Nyakunde, justement, pour permettre que les gens puissent revenir, puissent réoccuper ce village qui était un village, comme on pouvait le constater, qui a dû être un village florissant, mmh, à l'époque, mais qui avait été totalement abandonné. Donc c'est dire que nous avons déjà mené des opérations là-bas, mais cela n'exclut pas que par la suite, comme lui-même il le dit, il y a eu des milices qui ont occupé après ça. Moi je parle de 2004, lui il parle de 2006. Donc il y a eu des milices qui sont revenus, et donc il y a eu certainement encore des engins qui se sont retrouvés encore là.
Oui.
Et comme je l'ai dit encore une fois, le problème c'est que l'information puisse remonter, oui, jusqu'à un niveau de décision. qui permettent d'envoyer un opérateur quelque part pour le faire.
Donc la population doit participer également.
Absolument. Et c'est l'occasion pour moi de faire appel à la population, de faire appel aux autorités locales, à tout le monde, à tous ceux qui peuvent. Le but, l'objectif, c'est que nous puissions récolter le maximum d'informations. Et c'est à partir de ces informations, de cette cartographie que nous allons établir, que nous allons pouvoir procéder le plus rapidement possible à toutes les interventions nécessaires.
Voilà, nous disons merci à Haruna Ouedraogo, qui est chargé du programme de coordination de lutte anti-mine en République démocratique du Congo. Nous disons également merci à Mathieu Wilner-Reid, chargé du programme Mine Advisory Group, MAG.
Merci.
Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation et nous vous disons bonne fête, c'est une journée de fête aujourd'hui.
Merci à vous et profitons de dire merci également aux auditeurs qui ont bien voulu s'intéresser à la question. En tout cas, merci pour vos félicitations.
À la prochaine.
Merci.
Merci d'être branché sur la radio de la paix pour suivre cette émission au Capi Service de ce mercredi 19 août 2009. Et aujourd'hui, c'est une journée spéciale. On parle de la première journée mondiale de l'action humanitaire dans le monde. Eh bien, c'est une journée qui a été instituée, n'est-ce pas, pour sensibiliser le public aux activités humanitaires dans le monde, rendre hommage à tout le personnel humanitaire qui travaille pour la cause humanitaire et rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. C'est le cas, par exemple, de M. Sergio Vieira de Mello, qui a été victime d'un attentat à la bombe contre l'hôtel Canal le 19 août 2003, qui avait entraîné aussi la mort de 22 personnes, parmi lesquelles le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Et nous continuons notre balade et nous allons recevoir d'autres invités qui viennent de faire leur entrée dans ces studios. Alors, nous vous invitons à continuer à nous appeler au 081-890-6094 pour participer, ou bien si vous nous suivez en live sur Internet, à travers le monde, participer en nous écrivant à l'adresse action@radiocapi.net.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Célébration ce mercredi 19 août 2009 de la Journée mondiale de l'action humanitaire, une journée dédiée à tous ces hommes et femmes qui se dévouent au service des populations dans le besoin, notamment dans les zones en conflit. En République démocratique du Congo, ils sont nombreux à travailler au sein des agences des Nations Unies, des ONG nationales et internationales pour apporter leur aide aux populations victimes des affres de la guerre. À présent, nous recevons dans ce studio Stéphanie Savario, chargée de communication au programme alimentaire mondial. Bonjour.
Bonjour.
Et nous recevons également Dr Bora Kawende de la santé maternelle et néonatale à l'UNFPA. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu. Alors, nous commençons par Stéphanie. À l'occasion de cette première journée mondiale de l'action humanitaire, par rapport aux activités du programme alimentaire mondial en République démocratique du Congo particulièrement, quel bilan peut-on faire par rapport à ça?
Bah écoutez, je vous remercie d'abord de nous avoir invités pour effectivement souligner l'importance de cette journée à travers le monde. Et puis, puisqu'on est en RDC, évidemment, l'idée, c'est de parler de la situation humanitaire en République démocratique du Congo. Cette journée, elle est importante pour tous les humanitaires. Donc, tous les humanitaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire les Nations Unies, mais ça veut surtout dire toutes les ONG avec lesquelles on travaille. Vous savez, le Programme Alimentaire Mondial fournit une assistante alimentaire au Congo à peu près 1 million de personnes tous les mois, y compris des déplacés, mais aussi des enfants dans les écoles, des gens qui essaient de rentrer chez eux, de recommencer leur vie après des attaques, etc.
Oui.
Mais ce travail-là, ce qui est très important de souligner, c'est qu'on ne pourrait pas le faire sans les ONG congolaises et les ONG internationales.
Voilà.
On travaille avec des ONG comme la Caritas, par exemple, qui est présent avec nous aujourd'hui.
Et d'ailleurs, nous avons notre studio Paul.
Voilà, et donc je tiens aujourd'hui à vraiment les remercier pour leur travail, parce que c'est eux qui font les distributions alimentaires sur le terrain dans des conditions quelquefois difficiles.
Oui. Voilà. Voilà, nous, tel que vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons dans ce studio Paul Ebouma, chargé des projets, services, promotion de la solidarité et du partage urgence à Caritas Développement Congo. Bonjour, Monsieur Paul.
Bonjour, jeudi Daniel.
Merci d'être venu en cette journée où on célèbre la première journée mondiale de l'action humanitaire. Alors, vous travaillez en collaboration avec le Programme Alimentaire Mondial. Qu'est-ce qu'on peut retenir des actions que vous menez sur le terrain en faveur de nos populations?
Oui, merci beaucoup, Monsieur le journaliste. Je tiens à remercier très sincèrement le programme que vous avez tracé en ce qui concerne la célébration des actions humanitaires pour cette première journée.
Oui, allez-y.
Et comme vous le savez, La Caritas travaille vraiment en collaboration, en franche collaboration avec le PAM.
Oui.
Non seulement le PAM, mais aussi d'autres agences du système des Nations Unies.
Dans quel domaine
D'abord, je tiens, si vous permettez, à fixer d'abord l'esprit des auditeurs sur la mission spécifique liée au travail de la Caritas sur le terrain.
Oui.
Il faut savoir que la Caritas, c'est l'une de 11 commissions de la CENCO, qui est la Conférence Nationale Épiscopale du Congo.
Oui.
Ici, il faut dire que, voilà, qui a comme mission, évidemment, d'augmenter par la réflexion et l'action, l'efficacité de la contribution de l'Église catholique aux efforts de promotion intégrale de la personne humaine. Et c'est là, sans exclusive, conformément à la doctrine sociale de l'Église, notamment mener cette communauté et chacun de ses membres à l'accroissement de la charité et de la solidarité. Mm-hmm. Voilà ce qui fonde, évidemment, le travail de la Caritas sur terrain. Donc, nous apportons un élan de solidarité et de charité, n'est-ce pas, à nos frères et sœurs qui sont sur terrain, qui sont victimes, n'est-ce pas, des atrocités, des conflits et ainsi de suite. Et c'est un travail que nous ne pouvons pas faire seuls. Il faut un partenariat solide, une franche collaboration avec tous les réseaux installés sur place dans le travail des humanitaires. C'est dans ce sens que nous avons le partenariat avec le PAM.
Oui.
Et avec PAM, nous travaillons en collaboration pour des interventions, n'est-ce pas, en ce qui concerne les vivres. Oui, vous savez que PAM... Le programme alimentaire mondial, c'est un partenaire très potentiel pour nous. Et dans la capillarité de ce qui est notre intervention sur le terrain, nous avons des programmes liés directement avec PAM au niveau de la coordination nationale, tout comme au niveau des Caritas diocésaines. Je peux citer par exemple la Caritas Goma, qui récemment, PAM a eu à exécuter un programme très important, je crois, plus ou moins 2 mois d'intervention sur le terrain.
Et avec, on signale ces jours-ci un déplacement massif des populations à cause des affrontements.
Absolument.
À l'est du pays, je suppose que vous intervenez déjà sur les terrains.
Oui, je reviens récemment d'une mission de lancement des activités, de deux projets très importants à Butembo, où nous sommes en train d'exécuter ces projets pour intervenir justement, apporter toujours de l'assistance à nos frères et sœurs, population locale. Et là, c'est dans les domaines de NFI, c'est en collaboration avec la Caritas Allemagne et puis le gouvernement allemand, y compris ACDI, donc l'agence canadienne de développement international, donc pour une assistance de plus ou moins 13 500 ménages bénéficiaires dans le secteur de sécurité alimentaire, de NFI.
Les populations déplacées.
Oui, les populations continuent à déplacer. Il faut dire que le conflit, en fait, la compréhension des conflits aujourd'hui sur terrain fait que les populations ont du mal à supporter des exactions. Parce que lorsque vous regardez carrément les territoires de Lubero, de Kamandi à Kanyabayonga, en passant par Alimbongo, toutes ces localités, il y a toujours des déplacements massifs des populations et qui cherchent un endroit beaucoup plus sécurisant. Et ils sont en train de se mouvoir vers Lubero, qui est plus un grand centre.
Oui.
Et il faut comprendre que lorsque Lubero subit de tels afflux de population, par moment, il devient difficile de pouvoir les contenir et les gérer. Et c'est dans ce sens que Lubero également
et
a
vers
été...
vers les hauts plateaux, Ouvira, tout ça, il y a également, on signale aussi un déplacement massif des populations vers ces endroits.
Oui. Donc là, il faut dire que nous avons la Caritas Ouvira qui est sur place, parce que je disais tantôt que dans les réseaux de notre travail, nous avons des Caritas bureaux diocésains qui travaillent au niveau de chaque diocèse. Et au niveau de Ouvira, il y a la Caritas Ouvira qui s'en occupe, évidemment, qui essaie de faire une évaluation dans ce sens pour pouvoir nous donner l'information au niveau de la coordination nationale.
Voilà. Alors Stéphanie, par rapport à toutes ces actions que vous faites en faveur des populations, qu'est-ce que vous distribuez, par exemple, comme aliments à toutes ces populations?
D'abord, juste pour une précision, pour le Sud Kivu, effectivement, avec les déplacements massifs, le PAM, donc avec les ONG sur place qui nous aident pour les distributions, on est en train de doubler les distributions pour le Sud Kivu, en ce qui concerne les vivres du PAM, pour atteindre à peu près 250 000 personnes par mois, parce qu'il y a eu effectivement des déplacements importants ces dernières semaines et ces derniers mois. Alors, j'en viens justement aux distributions. Donc, le PAM fournit des vivres qui sont, dont 60%, je tiens à le signaler, sont achetés en Afrique, dans des pays voisins, notamment la Tanzanie, la Zambie, l'Ouganda. Elles sont ensuite acheminées soit par camion, une fois dans le pays aussi, on essaie de les acheminer par barge, en essayant d'utiliser les infrastructures locales et en essayant d'aider aussi à les réparer avec d'autres ONG partenaires quand c'est nécessaire.
C'est généralement de la farine que vous...
Alors, Alors donc c'est de la farine de maïs, c'est des haricots, des légumineuses, donc une ration qui en général est mensuelle, et donc les ONG qui font les distributions pour nous, comme la Caritas, font en fait des distributions pour un mois, pour les déplacés. Oui.
Voilà, et en cette journée où on célèbre la première journée mondiale de l'action humanitaire, c'est une journée pour rendre également hommage à ceux-là qui, aux humanitaires qui ont été victimes, n'est-ce pas, des certaines situations, qui ont été, certains sont morts, d'autres ont été kidnappés. Est-ce qu'en République démocratique du Congo, vous êtes aussi souvent exposé à l'insécurité dans le cadre de vos actions?
Alors effectivement, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, cette journée, c'est aussi pour commémorer l'anniversaire de la mort de 22 personnes quand même qui ont perdu leur vie en Irak en 2003 après l'attaque sur ce bâtiment des Nations Unies.
Oui.
Et effectivement, en République démocratique du Congo, ça concerne pas tant le programme alimentaire mondial justement que les ONG qui travaillent pour nous et qui prennent des risques aussi tous les jours en se déplaçant sur les distributions, qui doivent qui font preuve de courage
oui.
Pour le PAM, il y a effectivement des convois de camions, etc.
Qui sont détournés, ça arrive.
Détournés. Heureusement, on a peu d'incidents et quand on en a, on a la collaboration des autorités locales pour arriver à régler la situation. Donc ça, je dois dire qu'on touche du bois, mais jusqu'à présent, c'est des situations qui arrivent à se régler. Mais bien entendu, on est confronté à des problèmes et c'est vrai que c'est important pour nous de rappeler cette journée, de rappeler que ces convois, c'est des convois qui sont là pour aider les gens et qui sont là pour aider les gens qui sont les plus vulnérables. Donc c'est des gens qui ont été déplacés et qui ont vraiment perdu, qui ont dû se séparer de leurs biens et qui vraiment ont besoin de cette ration mensuelle pour tenir jusqu'à ce qu'elles puissent rentrer chez elles en attendant que la situation s'arrange. Donc c'est vrai que cette journée elle est importante pour nous pour rappeler notre mandat, le mandat du PAM, mais aussi des ONG qui travaillent avec nous, qui assurent ces distributions-là.
En l'occurrence, la Caritas.
Et grâce aussi à la collaboration des autorités locales qui nous aident à sécuriser les sites quand on fait des distributions. Les gens qui font ces distributions, les gens qui conduisent ces camions, c'est des gens courageux et ils le font pour aider vraiment des gens qui ont tout perdu. Donc c'est vrai que cette journée nous aide aussi à demander à ce que cette fonction, ce mandat soit toujours respecté.
Voilà, on n'a pas oublié Dr Bora Kawende, qui est également dans ce studio. Elle est chargée de la santé maternelle et néonatale à l'UNFIA, au Fonds des Nations Unies pour la Population. Je vais vous donner la parole tout à l'heure, le temps de recevoir un auditeur qui appelle. Vous savez, c'est une émission où les auditeurs appellent, ils ont des préoccupations, des problèmes qu'ils posent et nos invités tentent d'apporter des solutions. Nous avons en ligne Majaliwa depuis la ville d'Uvira. Majaliwa, bonjour.
Bonjour.
Oui, quelle est votre préoccupation?
Oui, notre préoccupation, c'est lié aux déplacés de la guerre kinyadé.
Oui.
Une guerre interne qui est en train de se perpétrer partout. Bon, il y a les déplacés qui sont là, et les déplacés sont sans appui.
Oui, allez-y.
Et puis, il y a encore trop de violations des droits humains aux déplacés. Il y a les pillages, il y a les maisons incendiées, il y a les sangs qu'on est en train de piller. Bon, il y a beaucoup d'histoires. Et jusque là, les déplacés n'ont pas de liens où donc ils sont dans les écoles, ils n'ont pas de bâches, ils n'ont pas de...
Oui.
Voilà. Il y a beaucoup de problèmes.
Voilà,
les maladies ne sont pas soignées.
Voilà. Merci beaucoup, Majaliwa, d'avoir appelé depuis Uvira pour poser votre préoccupation. Alors, je vais donner la parole à Paul Eboma, chargé des projets, services, promotion de la solidarité et du partage urgent. Vous avez quand même suivi son intervention.
Oui. Oui. J'ai suivi cette intervention. Vous savez, nous en avons l'habitude et ça fait très mal. Ça fait très mal de chaque fois d'entendre nos frères et sœurs pouvoir se plaindre de la sorte. Et vous savez, ce sont des milliers. Ce sont des milliers. Ce qu'il vient d'exprimer comme difficulté, c'est chaque jour que cela se passe. Et nuit et jour. Et vous savez, lorsqu'ils posent le problème, par exemple, de NFI, de bâche, vous savez, ils passent même des nuits à la belle étoile sur le fait des bananiers. C'est inhumain. c'est inhumain.
Avec tout le froid,
avec tout le froid, avec tout ce qu'il y a comme intempérie à l'est du pays, au nord Kivu, sur les collines, il fait extrêmement très froid. Et je vous dis, c'est pénible, c'est pénible. Il faut apporter de l'assistance en étant médicaux au niveau des centres de santé parce qu'il y a des problèmes très énormes.
Alors on peut dire que parfois vous êtes débordé, vous n'arrivez pas à satisfaire tous les besoins. Hein.
Vous savez, il est difficile à la Caritas seule. Voilà pourquoi il y a la coordination justement avec les ONG locales, nationales, mais surtout l'apport très potentiel des ONG internationales, en l'occurrence comme PAM, donc UNFPA y compris. Donc voyez-vous, donc il y a des difficultés énormes et nous sommes butés à certaines contraintes assez difficiles parfois pour exécuter les projets sur terrain et on ne sait pas satisfaire à tout le monde. Malheureusement, c'est ça justement les défis. C'est ça justement les défis.
Voilà, Dr Bola Abora Kawende, chargé de la santé maternelle et néonatale au Fonds des Nations Unies pour la population. Bonjour.
Bonjour.
Alors, parlons un peu à l'occasion de cette journée, de cette première journée mondiale de l'action humanitaire. Quelles sont les activités ou le mandat, la mission de l'UNFPA par rapport aux populations congolaises?
Merci beaucoup. Comme l'a dit ma collègue Stéphanie, en fait, cette journée, c'est juste pour porter connaissance aux gens qu'il y a quand même des actions qui se font dans les cas humanitaires pour porter assistance aux personnes en détresse.
Oui.
C'est aussi pour rendre hommage. Comme elle a fait, je rendrai aussi hommage à toutes ces ONG qui travaillent avec nous sur terrain, puisque en tant qu'agent du système des Nations Unies, nous avons certaines contraintes sécuritaires qui ne nous permettent pas de travailler dans un premier temps là où il y a des conflits, là où la sécurité n'est pas assurée. Mm-hmm. Et ce sont les ONG qui font le travail à notre place.
Donc vous travaillez en collaboration. Oui, comme le PAM le fait, vous travaillez aussi en collaboration avec certaines ONG.
Exactement, puisque les nations, normalement, les agents du système des Nations Unies ne mettent pas en œuvre, donc ils ne vont pas directement sur le terrain pour faire les distributions. Donc nous passons par les ONG nationales et internationales pour faire les distributions, comme le PAM distribue les vivres. Le Fonds des Nations Unies pour la population s'occupe de la santé maternelle.
Oui.
Donc nous, dans les cas des urgences, on fait en sorte que nous puissions combattre la mortalité, la morbidité des mères et des enfants. Nous puissions tant soit peu réduire la transmission du VIH-SIDA.
Mm-hmm.
Nous allons aussi, nous mettons en œuvre de mesures, des stratégies pour réduire les violences sexuelles.
Oui.
Donc voilà un peu en gros les trois actions que l'UNFPA mène dans les cas des urgences humanitaires.
Et par rapport à la situation au Kivu actuellement, quelles sont les interventions de l'UNFPA avec ses partenaires pour subvenir, arriver quand même à secourir et ses compatriotes en difficulté?
Comme l'a dit mon frère de Caritas, les besoins sont énormes.
Oui.
Nous essayons avec ce que nous avons pour répondre, mais ce sera vraiment utopique que nous puissions être au chevet de chaque personne déplacée, au chevet de chaque ménage qui est en détresse.
Oui.
Donc l'UNFPA travaille avec les ONG qui sont par exemple dans la santé maternelle. Nous avons ce que nous appelons des kits de santé de la reproduction. Il y a différents kits. Il y a des kits que nous donnons aux femmes enceintes, donc les femmes visiblement enceintes,
oui.
Puisque lorsqu'il y a un conflit qui éclate, lorsqu'il y a un désastre naturel qui arrive, il y a des femmes qui sont enceintes, elles vont finir par accoucher. Elles peuvent accoucher pendant que le système n'est pas encore remis en ordre.
Il y a certaines qui tombent enceintes après être violées.
Bien sûr. Bon, nous parlons d'abord de celles qui sont déjà enceintes.
Oui.
Puisqu'elles peuvent accoucher en cours de route pendant qu'elle est en train de fuir, ou bien elle peut arriver dans un camp nouvellement installé et puis elle accouche. Donc à ces femmes-là, c'est que nous disons les femmes visiblement enceintes, donc on voit qu'elle est enceinte, on donne un kit d'accouchement propre. En fait, ce kit est constitué d'un petit matériel qui permet à ce que la femme, si elle doit accoucher en dehors de l'hôpital, puisse accoucher au moins de manière propre.
Oui.
Donc il y a une paire de gants, il y a une lame de rasoir, il y a un mètre de plastique, il y a un tissu pour couvrir les bébés.
Oui.
Donc ça, c'est ce que nous appelons les kits d'accouchement propre. En fait, c'est pour donner à la femme, au cas où elle n'arrive pas à une maternité, qu'elle puisse quand même accoucher de façon propre.
Voilà.
Nous avons aussi des kits pour la prise en charge de victimes de violences sexuelles. les cas de viol qui interviennent dans les camps, puisque lorsque vous êtes en déplacement, lorsqu'il y a un conflit, il y a une rupture des liens familiaux, il y a des enfants qui sont perdus, les femmes qui n'ont pas leur mari et qui sont à ce moment-là à la merci de que ce soit des bourreaux,
oui,
ou même des autres membres de la population. Et ces femmes violées ont besoin d'une assistance médicale, oui, et d'un soutien psychologique.
Et parfois, ces femmes connaissent ce qu'on appelle les fistules après être violées. Vous avez aussi vous organisez un programme pour traiter également ces genres de maladies.
Oui, nous avons un programme pour réparer les fistules. En fait, les fistules, c'est une complication.
Oui.
Donc là, dans l'assistance que nous portons l'assistance à trois niveaux.
Oui.
Au niveau de la communauté où nous distribuons les kits aux femmes enceintes. Au niveau des structures sanitaires, puisque dans certains camps de déplacés, par exemple, on a pu mettre en place avec d'autres partenaires des petits centres. Mmh. Et là, il y a, dans chaque petit centre, il y a une maternité et on donne des médicaments et des équipements pour que les femmes puissent accoucher là-bas.
Alors, docteur Bola, le temps de recevoir un invité, un auditeur qui nous appelle depuis la province orientale, Gabi Yaïsiro. Bonjour Gabi.
Bonjour, différents animateurs de la radio Okapi et surtout la branche Okapi Action. Bonjour à Dr Bora,
voilà.
UNFDA.
Voilà.
Bon, ma préoccupation est la suivante.
Oui.
À un moment donné, nous avions appris qu'à Kinshasa, il s'est passé une vulgarisation d'une plante qu'on appelait le Kikalakasa.
Oui.
Bon, c'est une plante justement qui avait comme objectif la sécurisation alimentaire. Parce que chez nous, dans les autres programmes, FAO, FAM, etc., nous intervenons souvent quand il y a de catastrophes, tout ça. Mais je crois qu'il aurait fallu également essayer de mettre le gros paquet dans la sécurité alimentaire, dans la prévention. Bon, le programme a été institué à Kinshasa et à nous, à Isiro, à quand, docteur Bora, pourrait prévoir quelque chose pour nous à Isiro? Parce que le Kikalakasa ne pose pas problème dans notre végétation ici.
Merci beaucoup Gabi pour votre intervention. Docteur, vous avez une réponse?
Merci beaucoup Monsieur Gabi. En fait, c'est vrai que le programme de Kikalakasa ne date même pas de l'année passée. C'est un programme de plus de 10 ans, je crois. Mais je crois, dans le système des Nations Unies, chaque agence a un mandat. Et le mandat de l'UNFPA, malheureusement, n'est ni dans la sécurité alimentaire, ni dans la nutrition. Il y a notre agence sœur, les PAM, et la FAO,
oui,
qui s'occupent de ces questions. Donc, je vais passer la parole,
oui,
plutôt
à ma
collègue Stéphanie, qui pourra vous donner une réponse. Merci.
Alors, malheureusement, j'ai pas une réponse précise sur ce programme-là, mais je peux la faire passer par Radio Okapi après m'être renseignée auprès de mes collègues qui couvrent ce secteur. Mais je tiens quand même à préciser effectivement que l'action, nous on parle des humanitaires, de l'action humanitaire au sens large aujourd'hui parce que c'est la journée humanitaire mondiale, mais il est bien évident que c'est pas l'action humanitaire, que c'est pas les vivres, que c'est pas une action de court terme qui va régler des problèmes de long terme. On est tous très conscients de ça. Il y a des actions qui sont menées en parallèle dans la prévention également. La FAO s'occupe de distribuer des semences avec le ministère de l'Agriculture. Elle travaille en étroite collaboration. Et puis surtout, moi je voudrais préciser aussi que le PAM a un programme depuis très longtemps. On achète des vivres au Congo. Mmh. On a acheté 8000 tonnes de vivres l'année dernière et on est en train de travailler pour renforcer ce programme. L'idée, c'est effectivement de ne pas faire que des activités de court terme qui vont régler des questions cruciales de court terme et d'urgence, parce qu'elles sont cruciales, parce qu'il faut sauver des vies, mais en même temps de poser les bases pour que avec les autorités locales, avec le gouvernement, avec tous les partenaires, on puisse aider les gens à développer des solutions de long terme. Pour ça, évidemment, il y a besoin de sécurité aussi, c'est essentiel.
Bien entendu. Alors,
mais tout ça, on y travaille en collaboration avec d'autres agences,
avec d'autres
bien
agences.
Évidemment.
Oui, alors peut-être que Paul Ebouma a une réponse. Oui,
j'aimerais juste appuyer aussi Stéphanie dans le même sens, parce que les interventions humanitaires ne doivent pas continuer à court terme. En fait, ce sont des interventions à court terme et ne peuvent pas apporter des solutions durables. Mais nous sommes en train de réfléchir à notre niveau à chaque fois que nous pouvons arriver à intervenir à court terme, mais aussi penser à un projet à développement durable. Parce que nous avons un service de développement durable chez nous. Juste après quelques actions des urgences humanitaires. Donc, le service de développement durable prend le relais. Ainsi, il peut toujours revenir avec des projets sur la sécurité alimentaire. Donc, c'est un peu dans ce sens que je voulais appuyer Stéphanie.
Voilà, nous avons une réaction de Edmond depuis Bukavu. C'est une question qui est adressée à Dr Bola. Il dit, on a l'impression que ce qui est fait sur terrain est une goutte d'eau dans l'océan, car le nombre de victimes de violences sexuelles augmente surtout à l'Est. Et puis, quelles sont les statistiques aujourd'hui?
Merci beaucoup à Edmond. Évidemment, les statistiques, ça dépend de ce qu'on veut. On ne peut pas avoir les statistiques de tous les pays.
Oui.
Mais nous avons une moyenne d'environ 1500 cas, de nouveaux cas, qu'on appelle les cas incidents de victimes par mois pour tous les pays.
Mm-hmm.
Et malheureusement, environ 80% de ces victimes se trouvent dans les deux provinces du Nord et du Sud Kivu.
Oui.
Et c'est vrai aussi que, comme j'avais dit, que ce soit l'UNFPA ou n'importe quel agent du système des Nations Unies ne sera pas à même de donner ou d'assister toutes les victimes. Ça ne sera pas possible, d'autant plus que il y a des victimes qui se trouvent dans des endroits inaccessibles à notre programme.
Mais vos partenaires peuvent y arriver.
Même les partenaires, il y a des endroits où même les partenaires ne peuvent pas arriver à cause de l'insécurité.
Oui.
Puisque nous ne pouvons pas mettre la vie de nos partenaires en danger pour aller secourir les autres. La sécurité de nos partenaires aussi nous est importante, puisque si nous n'avons plus de partenaires, on ne saura plus travailler.
Voilà, il y a une question également d'un auditeur depuis Goma, une question qui s'adresse à Stéphanie. Pourquoi le PAM achète des produits à distribuer à la population à l'extérieur? L'invité a parlé de la Tanzanie, et très souvent la nourriture n'est pas adaptée à nos habitudes alimentaires.
Alors ça, c'est une question à laquelle on est confronté pas seulement au Congo, je vous rassure, mais dans beaucoup de pays dans le monde.
Oui.
La question de l'adaptation des vivres, je pense que c'est vrai que le problème, c'est de distribuer des grosses quantités et de les faire acheminer de manière importante. Comme je vous le disais tout à l'heure, on distribue à 1 million de personnes tous les mois. C'est une grosse machine. Ça représente beaucoup de camions, ça représente beaucoup de barges, non, ça représente beaucoup d'avions.
Pourquoi vous achetez en Tanzanie, par exemple, et puis c'est pas adapté aux habitudes
alimentaires? Écoutez, pourquoi on achète en Tanzanie? Parce qu'en fait, les appels d'offres, ça, par contre, il nous faudrait qu'on fasse une autre émission pendant une heure pour que je vous explique comment se passe le système des appels d'offres, pour acheter au prix le moins cher, pour que les donateurs soient satisfaits avec la façon dont leur argent est utilisé. Il y a beaucoup de conditions.
Beaucoup
si
de
vous
conditions.
Voulez, je reviens pour qu'on en parle.
On pourra y revenir prochainement.
Mais je pense que les déplacés qui reçoivent la nourriture, j'espère aussi que vous les inviterez un jour pour demander ce qu'ils en pensent et pour dire que j'espère que ça leur a quand même, ça les a aidés pendant un mois.
Tout à fait, on s'achemine petit à petit vers la fin de cette émission. Nous allons prendre un auditeur qui nous appelle depuis Maniema. Augustin, bonjour.
Bonjour.
Oui, votre préoccupation, Augustin, rapidement.
Bonjour, ok, ma préoccupation est de savoir puisque le problème de la violence sexuelle est concerné dans tout le pays congolais. Maintenant, les Founouap et le PAM, ils se basent essentiellement de la province du Nord Kivu. Maintenant, et ici aussi au Maniema, il y a beaucoup de femmes qui sont violées. Maintenant, le PAM et le Founouap ne supportent jamais. Il y a, puisqu'ils viennent de parler là-bas, il y a le kit de maternité qu'on donne. Ici, on ne donne pas. Et il y a aussi des maladies transmissibles, c'est seulement
des accidents. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Augustin, pour votre intervention. Docteur Boura Kawende, en quelques minutes, vous pouvez répondre à cet auditeur.
Oui, oui. Monsieur Augustin, je pense que peut-être vous n'avez pas l'information, mais je peux vous dire que les deux agences, PAM et le Fonds des Nations Unies pour la Population, sont présents dans la province de Maniema, précisément dans la ville de Kindu, et l'UNFPA appuie plusieurs hôpitaux pour la prise en charge des victimes de violences sexuelles, et les PAM donnent des vivres à ces victimes. J'ai été moi-même à Kindu il y a il y a quelques semaines et j'ai vu ce que ces deux agents sont en train de faire sur terrain. Donc si vous demandez à l'hôpital général, la maternité est sans risque, à la maternité de Alungouli, ils vous diront qu'ils ont reçu des équipements et des médicaments de l'UNFPA pour la prise en charge des victimes de violences sexuelles et que les PAM a mis à la disposition de ces structures aussi des vivres pour donner à ces victimes au cours de leurs hospitalisations.
Voilà, c'est par ici que prend fin cette émission. C'était une émission spéciale pour célébrer la première journée mondiale de l'action humanitaire. Nous disons merci à Stéphanie Savario, chargée des communications au programme alimentaire mondial. Et nous disons également merci à Paul Ebouma, chargé des projets d'urgence à Caritas Développement Congo. Et merci également à Dr Bora Kawende de la santé maternelle et néonatale à l'UNFPA. On espère peut-être vous retrouver, vous accueillir encore une prochaine fois pour parler de vos activités en faveur de nos populations. Et il ne reste plus qu'à vous souhaiter bonne fête. Hein. C'est une journée de fête.
Merci, carrément.
Merci et à la prochaine.
Hein. Okay.